Les jardinières. Rediffusion.
Bonjour à tous et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre professionnel Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves.
Bonjour tout le monde.
On a envie que nos jardins et nos cultures résistent à la pluie et au vent de ces derniers jours. On sent l'automne approcher, les gelées ne sont pas bien loin et nos plantes luttent déjà pour rester jolies. On est avec vous ce matin pour vous donner toutes les clés pour protéger vos belles étendues vertes.
Toutes les questions de jardin qui vous tracassent, nous allons y nous y intéresser jusqu'à 8h. Vous pouvez harceler de questions notre spécialiste Jean-Pierre Ribaud. Il essaiera d'y répondre et vous pouvez directement nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Si votre choix n'est pas encore échauffé, c'est les doigts que vous pouvez faire chauffer en vous envoyant un SMS au 939 en commençant votre message par le mot jardin, J-A-R-D. N'oubliez pas de laisser un espace avant de poser votre question. Et un autre moyen s'offre à vous, c'est le formulaire internet. Sous l'onglet émission, vous trouverez l'intitulé questions aux jardinières.
On profite des premières heures de la journée pour prendre soin de votre jardin. C'est parti pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Claudine de Bienne a un laurier rose haut de 1m80 sur son balcon qui est dans un pot d'environ 45 cm de diamètre. Elle a plusieurs questions concernant ce laurier. Premièrement, elle se demande s'il faut couper le bout de la tige qui a donné des fleurs, Jean-Pierre.
Oui, bonjour Claudine. Alors bien sûr, le laurier est une plante qui supporte relativement bien les tailles. En cette période de fin de saison végétative, avant de rentrer votre laurier dans un local un peu plus tempéré pour l'hiver, pour qu'il ne subisse pas les dégâts du gel, eh bien vous pourrez effectivement le tailler. Alors on peut le rabattre à la hauteur que l'on souhaite, il va redémarrer facilement au printemps selon la taille que vous lui aurez donnée. Par contre, dans la saison de végétation, quand les fleurs commencent à passer, là on peut déjà tailler vraiment les éléments qui se dessèchent dans le haut des ampes florales, comme ça fait plus joli. Et puis on a peut-être encore un retour de petites floraisons qui arrivent, il peut être remontant, donc voilà, oui bien sûr.
Et avant l'hiver, est-ce que Claudine doit couper les tiges qui sont trop longues justement afin de façonner son laurier?
Oui, alors bien sûr, une taille c'est vraiment pour redonner une structure à la végétation, le mettre avec une harmonie constante, l'arrondir par exemple, s'il y a des éléments qui se sont développés plus rapidement d'un côté que de l'autre, alors la taille permettra justement d'égaliser tout ça pour le rendre vraiment très attractif pour le printemps.
Et pour passer l'hiver, Claudine a l'habitude de couvrir le pot de son laurier rose avec une toile. Alors, est-ce que c'est suffisant ou elle doit emballer toute la plante?
Alors, elle a dit qu'elle était à Bienne. Hein. Certainement qu'elle a un climat un peu plus clément que chez nous sur la Joie ou sur la vallée de Léman, ou en tout cas des Franches-Montagnes, bien sûr. Le laurier est une plante quand même qui subit les alinéas de l'hiver chez nous. C'est une plante qui provient du sud, souvent du Portugal. Elle porte bien son nom pour ça. Le froid va certainement le rendre néant si elle ne le protège pas plus que de couvrir que le pot. Parce que, évidemment, le pot va prendre le froid, va faire que les racines vont geler au contact du froid. Mais également les éléments végétatifs, donc les branches. Le mieux, c'est quand même de le rentrer soit dans un garage, soit dans un jardin d'hiver, un hall d'entrée où il ne fait pas trop chaud et sec. Mais ça ne suffira pas de protéger que le pot, malgré qu'elle se trouve sur Bienne.
Et à partir de quand elle devrait le rentrer pour première gelée?
Alors oui, ouais, je dirais début décembre, jusque-là, il va supporter sans problème nos latitudes. Il supporte les moins 1, moins 2 sans souci. C'est les moins 10, moins 15 avec les fortes bises qui ne vont pas passer durant l'hiver.
Un peu comme nous en fait.
Exact.
Sarah, vous avez une question, je crois.
J'ai carrément un appel. C'est Marie-Thérèse à Bouécourt qui nous a appelé pour nous parler de son buis de buis. Alors bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Dites-nous tout.
Écoutez-moi, c'est moi qui l'ai planté. C'est un buis qui vient, c'est du buis qui vient de buis.
Oui.
Et puis j'y tiens quand même. Mais c'est une belle haie. Mais ma foi, malheureusement, c'est venu gris quand même dedans.
Oui.
Puis une maladie quand même.
Alors, il peut y avoir deux éléments à votre buis. Certainement qu'il a été attaqué par la, la chenille du buis qui s'est attaquée énormément sur ces haies de buis cette année. Hein. Alors si c'est le cas, il faudra le traiter, traiter votre haie au printemps avec un insecticide que vous trouvez relativement facilement dans le commerce. Maintenant, ils se sont même accaparés des produits assez light pour justement être en adéquation avec la nature. Par contre, si c'est une haie qui s'est desséchée à l'intérieur, vraiment, alors ça c'est presque normal. Le buis, une fois qu'on le taille, se dessèche à l'intérieur pour garder la partie extérieure verte, le contact visuel à la lumière. Si c'est cet élément-là, vous ne pouvez pas grand-chose.
Mais pardon, il a toujours été taillé correctement parce que je fais partie de la Société d'arboriculture de Basse-Cour.
Oui.
Et puis, j'ai deux amis qui viennent régulièrement le tailler. Et puis, c'est seulement cette année qu'il a attaqué.
Oui, alors si c'est l'attaque justement de la chenille, ça vous n'y pouvez pas grand-chose, si ce n'est que de faire une intervention chimique pour le traiter. Si c'est des éléments qui se dessèchent sur le pourtour de votre buis, ça peut être des éléments... C'est pas ça. Oui, alors c'est effectivement la chenille. Donc là, il faudra que vous le traitiez au mois de mai l'année prochaine et puis renouveler le traitement en juillet pour combattre justement cette chenille qui est très virulente chez nous maintenant.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Vous êtes d'accord avec vous.
Voilà.
Mais moi, je pense que... Moi... Bon, il n'est pas attaqué tout le long, hein.
Oui, mais la pyrale...
Oui, il a certains passages.
Oui, mais la pyrale, ça dépend de l'attaque que vous avez eue, mais si c'est une très forte attaque l'année prochaine, toute votre haie va y passer, c'est évident. Elle arrive gentiment, puis une fois qu'elle s'installe, après, elle prend ses airs, cette spirale, elle est assez gourmande au niveau du développement de sa progéniture. Des chenilles, quand elle est sur le buis, elle est très très évidente, vous la voyez en quantité, quoi.
Je devrais quand même tout traiter, toute la longueur.
Ah, vous avez meilleur temps, oui, tout à fait. Parce qu'au début, la chenille, elle est toute petite. Et puis, quand vous voyez la chenille, vous voyez vraiment déjà le dégât, puis c'est déjà tard pour traiter.
Alors maintenant, c'est trop tard pour faire un traitement.
Alors oui, parce que la chenille, elle est déjà en papillon, elle est déjà partie de votre buis. Elle va réapparaître l'année prochaine avec les nouvelles pontes du papillon qui se développeront à partir du début mai.
Pardon, c'est un papillon blanc ?
Oui.
J'en ai eu énormément.
Eh ben voilà.
Bonne chance alors, Marie-Thérèse, avec ce papillon blanc. Merci beaucoup.
Pareillement, c'est sur les choux aussi que ce papillon.
Oui, ok.
Bon, au revoir.
Au revoir, bonne journée. Merci à vous.
Belle journée. Et nous avons reçu un SMS, Sarah, je crois, qui parle de buis également.
Également, et qui lui donne des soucis, c'est Nelly de Queuve. Alors, on n'a pas plus de détails sur ce buis qui lui donne des soucis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper d'un buis qui a des soucis, Jean-Pierre Ribaud ?
Oui, alors certainement que le buis de Nelly a également cette pyrale du buis qui l'a attaqué cette année. Il faut savoir que le buis était à l'époque une plante très très prisée dans les aménagements extérieurs parce que il supporte hyper bien le sec. Hein. D'ailleurs, quand on se rend compte sur la commune de Buis, où il arrive à se développer sur les versants rocheux, où il n'y a quasi pas de terre, il était hyper intéressant pour nous de l'implanter dans les aménagements extérieurs, où il n'y a pas beaucoup de fond, de terre, dans les bacs, dans les pots. Il passe partout, vraiment. Alors maintenant, avec les problèmes que l'on rencontre par rapport à cette pyrale qui nous est arrivée, d'Asie ou du Japon, on est un peu démunis. On n'a pas de parasites naturels qui vont le combattre, si ce n'est qu'une intervention chimique de l'homme. Il faut traiter deux fois par année. Je pense que le buis a plus longue échéance chez nous. Il a un peu des soucis à se faire dans son existence. Voilà.
Et vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions, hein, comme l'a fait Nelly de Queuve. Il y a plusieurs possibilités, Sarah.
Le SMS au 939, vous tapez d'abord le mot jardin, vous laissez un espace et puis votre question. Et sinon, il y a aussi le formulaire internet sur nos sites. Vous trouverez un onglet où il y a marqué « Questions aux jardinières ». Sinon, vous pouvez aussi nous appeler, comme Marie-Thérèse l'a fait tout à l'heure. Le numéro, c'est 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
7h, 8h, les jardinières.
Jérôme de Kourou se demande comment faire quand on plante du gazon autour de la maison et que celui-ci touche les dalles pour que celui-ci ne touche pas les dalles. Ah, que les dalles ne brûlent pas à cause de la chaleur. Il y a toujours un espace de quelques centimètres entre le gazon et la dalle. Comment faire pour éviter cet espace ?
Bien, bonjour Jérôme. Oui, effectivement, c'est un problème qui est assez récurrent dans ces aménagements extérieurs. Il est souvent deux gros problèmes quand on réalise un dallage autour d'un bâti. pour ensuite ensemencer la pelouse. C'est souvent une assise du dallage qui est un petit peu trop large, et puis cette chaille qui se trouve en dessous de votre dallage, qui déborde un petit peu sur l'espace futur de votre pelouse, va faire que ça va assécher le terrain, et puis le gazon qui ne supporte pas tellement ces espaces comme ça très secs, eh bien il va sécher. Et puis si ce n'est pas le problème de votre coffre, comme on appelle donc le coffre de fondation de votre dallage, eh bien ce sera bêtement l'élément du béton qui aurait été posé en bordure de votre dallage qui va étendre cette partie sèche en dessous de votre pelouse future. Et puis effectivement, s'il y a 2-3 cm de terre, eh bien non seulement le gazon il va périr, il va dessécher, il ne va même pas germer là-dessus, mais après au premier orage vous aurez une arrivée constante de terre, de poussière de terre, d'éléments qui vont venir ternir votre dallage. Alors pour éviter ce phénomène, bien sûr il faut diminuer cette largeur de coffre, ou quand on a posé le dallage, enlever une partie de cet élément qui est trop drainant en dessous de l'épaisseur de la terre végétale que vous aurez posée. Et puis surtout, maintenant on trouve dans le commerce des bandes plastiques en forme de T. Et puis ce T, on glisse une des ailes du T en dessous de votre dallage. Le vertical va vous tenir le dallage. Et puis sur l'extérieur, vous avez une partie qui est trouée dans laquelle on va insérer des agrafes ou des clous qui vont justement permettre de tenir votre dallage, qui vont éviter ce dessèchement de votre pelouse.
Et justement, c'est quelque chose à faire avant la construction, enfin avant la mise en place du jardin. J'imagine qu'on ne peut pas le faire après coup.
Alors oui, effectivement, c'est des éléments à mettre en place lors de la réalisation de votre dallage. Maintenant, si par hasard ce n'est que le problème du béton qui aurait été posé en bordure de dallage, ça, on peut encore se permettre de l'enlever, de le casser, de rajouter de la terre végétale, de remettre une de ces bandes plastiques pour tenir votre dallage et puis ressemer votre pelouse. Par contre, si c'est vraiment une surlargeur de coffre, là c'est plus compliqué parce qu'il faudrait d'abord enlever la terre végétale, ensuite décaisser cet élément de pierre qui aurait été posé en dessous, remettre de la terre végétale. Tout est faisable, mais c'est vraiment à la mise en place du dallage, lors de la réalisation, qu'il y a quelques mesures toutes simples à prendre pour avoir une super pelouse derrière.
Est-ce qu'il faut que ça soit plutôt fait par un professionnel, vu que ça a l'air assez complexe?
Non, pas forcément. Il faut simplement savoir qu'il ne faut pas trop déborder au niveau de la pierre en dessous de votre dallage. Et puis, surtout, ne jamais bétonner ce bord de dallage, mais poser simplement une de ces bandes plastiques. Ou même, si c'est des dalles de 50-50 ou 60-60 cm de largeur, elles ne vont pas se déplacer d'elles-mêmes. Hein. Même ne rien mettre en bordure de votre dallage ne va pas du tout altérer la pose de votre dallage. Et puis, vous aurez votre pelouse qui va venir pousser en bordure de dallage, qui évitera justement ce salissage lors des orages, des pluies, par le fait que cette terre n'est pas ensemencée.
Sarah, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, toujours dans la pelouse. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, une fois qu'on a tondu le gazon? Est-ce qu'on peut le récupérer pour entretenir son jardin, en faire un compost,
oui.
Je sais pas.
Alors, on peut se permettre de faire un mulchi avec le compost que l'on vient de tondre. Alors, un mulchi, c'est une mise en place d'une épaisseur de 10-15 cm de gazon, en pied de haie, en bordure de plantations diverses. L'important surtout, c'est qu'il ne faut jamais toucher la plante sous laquelle on aura mis le gazon, parce que le gazon, il a un potentiel énorme de fermentation, il va monter très vite en température, et puis il risque de vous occasionner des gros dégâts sur les plantations que vous aurez. Donc si vous ne touchez pas les éléments plantés, aucun souci, vous pouvez mettre votre mulchi. L'avantage du mulchi, c'est que ça va vous conserver énormément l'humidité, ça va amener un petit peu d'azote à la décomposition, ça va vous éviter évidemment toutes les mauvaises herbes qui peuvent se développer dans votre plate-bande. Mais encore une fois, ne touchez jamais, jamais les plantes et les troncs, même des arbres fruitiers. J'ai vu dans des propriétés des fruitiers d'une quinzaine d'années qui avaient été butés avec des déchets de tonte, qui ont péri 2 mois plus tard parce que justement, il est parti en fermentation, il a carrément brûlé le pourtour de l'arbre.
Super conseil en tout cas ce matin, Jean-Pierre Ribaud, merci pour tout ça. Et puis vous qui nous écoutez, vous avez jusqu'à 8h pour poser vos questions à notre spécialiste Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Comment est-ce qu'on peut faire, Sarah?
Par SMS au 939, vous tapez d'abord le mot jardin, vous laissez un espace, puis votre question. Et par formulaire internet, il y a un onglet sur nos sites internet qui s'appelle Questions aux jardinières. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler au 0901 70 20 20.
Les jardinières sont encore là pour vous pendant cette petite demi-heure. Elles sont accompagnées de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves.
Et nous avons reçu un appel de Pascal de Malray, qui est là, qui est en ligne. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai dans les bacs sur le balcon, j'ai des œillets vivaces. Est-ce que l'hiver, il faut mettre des branches de sapin pour les préserver ?
Pour les protéger. Bonjour Pascal. Oui, c'est plus judicieux, effectivement. L'œillet, il aime quand même les espaces qui sont un petit peu protégés au niveau du froid. Alors c'est vrai aussi qu'il apprécie les espaces qui sont un petit peu plus séchards. Ça veut dire que dans vos bacs, qui doivent se porter à merveille. Durant l'hiver, c'est mieux de les protéger un petit peu, soit avec une dard, donc des branches de sapin que vous aurez coupées, soit un flim, soit des sacs de jute, pas trop denses pour ne pas les couper complètement de la luminosité, mais c'est plus judicieux, oui.
D'accord, bah, je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite à tous un bon week-end.
Merci Pascal.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir appelé, et puis si vous aussi, comme Pascal, vous voulez poser vos questions jusqu'à 8h, c'est le 0901 70 20 20. Il y a également le SMS, Sarah.
Oui, 939, et c'est 30, et c'est pas 36 centimes la minute, ça c'est l'appel là, au 0920 20, mais le SMS, il faut taper le mot jardin en début de message et laisser ensuite un espace avant votre question. Sinon, il y a aussi le formulaire internet sur nos sites, vous trouvez un onglet questions aux jardinières.
Et justement, SMS, on en a reçu. On a Astrid qui nous demande, qui nous dit qu'elle a un lantana qui se taille beaucoup ou bien peu. C'est justement la question qu'elle se demande avant hivernage ou début du printemps. Et voilà, c'est la question qu'elle vous pose ce matin, gentil.
C'est gentil, bonjour Astrid. Bon, je dois dire qu'on ne connaît pas forcément bien le lantana, nous, en tant que paysagiste. Je pense que c'est plutôt une question à réserver un futur samedi quand vous aurez un horticulteur sur le site. Parce que si je vous réponds et puis que ce sera faux, je m'en vais vouloir tout le week-end.
C'est vrai que voilà, donc conseil à un horticulteur, c'est peut-être mieux, Astrid. Voilà. On a reçu encore une question, Sarah.
Oui, par formulaire, Damien de la Chaux-de-Fonds, qui dit qu'il a été surpris en achetant hier 2 kilos de pommes. Elles sont de couleur rose-orange de Suisse en grande surface et au prix de 10 francs, soit 5 francs le kilo. Et avec un bel été qu'on a eu, est-ce que c'est normal d'avoir des prix pareils pour des pommes, Jean-Pierre Ribaud ?
Oh, encore une fois, c'est selon où il aurait été chercher ses fruits, c'est selon l'établissement, c'est selon... Ouais, là, je ne peux pas trop répondre non plus. Il faut voir si c'était des pommes bio, faut voir... C'est compliqué la réponse pour
moi. Ça a été une bonne saison pour les pommes ?
Alors, mitigé, je dirais, selon les endroits. Hein. En tout cas, chez nous, au niveau du canton, on se les a fait cueillir au dernier gel qu'on a eu ce printemps. Là, on avait eu moins 6, moins 7, et puis le 80-90% des récoltes ont été anéanties. Il y a quelques vergers qui ont eu énormément de damascines. Ça, c'était incroyable. Pourtant, on pensait que tout serait cueilli. Eh bien non, la damascine qui est peut-être plus sédentaire a résisté au choc selon les endroits, selon les courants. Au niveau des pommes, ça a été plutôt mitigé.
Justement, mais c'est vrai que ça dépend un peu donc, du style d'arbre fruitier. Selon la récolte, le nombre de fruits qui a été donné, c'est pas forcément régulier selon les régions et selon les arbres fruitiers.
Alors oui, tout à fait. Après la forme, c'est pas forcément ça qui va faire que vous aurez beaucoup ou peu. On sait très bien que les arbres fruitiers de petite taille greffés sur des porte-greffes très faibles vont se mettre en production beaucoup plus facilement. Peut-être le prix cité par rapport à la production qui a été plutôt minime au niveau suisse. En plus, si c'était des fruits bio ou selon la provenance ou la variété, ça c'est plus compliqué à répondre.
J'en profite pour rebondir sur la question des arbres fruitiers. Justement, l'hiver approche. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire maintenant pour les arbres fruitiers, histoire de bien anticiper cette saison hivernale ?
Oui, alors au niveau du verger fruitier, pour le moment, on est encore un peu light. Hein. Il y a peut-être quelques taillots verts qui peuvent encore se faire. On peut enlever quelques rejets, quelques drageons, contrôler les démarrages au niveau des pieds. Le gros du travail va arriver sur le mois de novembre, lors des premières tailles qu'il faudra réaliser dans les tailles d'entretien ou de formation des fruitiers. Pour le moment, on est plutôt cool. Ramasser les quelques pommes qui peuvent encore rester.
Donc voilà, c'est vrai que les arbres fruitiers, pour l'instant, on les laisse en paix.
Tout à fait.
Nous avons Lucie d'Auvernier qui nous dit que les feuilles de vigne de son jardin sont devenues jaunes, mais les nervures sont encore vertes. Alors pourquoi cela se produit et qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter cela ?
Oui, alors c'est certainement une carence féerique qu'elle aura eue sur son pied de vigne. Une carence féerique, c'est un manque d'éléments du fer carrément qui fait que cette nervure se ternit de jaune et puis la nervure reste verte foncée. Il faut faire une adjonction de substrat terreux avec justement de la chélate ferrique. Ça, vous trouvez dans le commerce facilement. Il faut simplement dire que vous avez une carence ferrique au niveau de votre vigne. Hein. On peut aussi le rencontrer. Ça peut aussi se produire peut-être sur le rhododendron pour les novices qui voient un peu la matière. Un rhododendron qui est planté dans une terre très calcaire, eh bien, il va justement avoir cette réaction de jaunir au niveau du feuillage et puis de garder cette nervure verte. C'est vraiment un problème de carence. Voilà.
Et on a une question d'une auditrice qui nous parle plantes aromatiques. Ce matin, elle a du basilic, du persil et de la ciboulette dehors, dans de gros pots. Alors, est-ce qu'elle doit les rentrer pour l'arrivée du froid? Et si elle doit les rentrer, est-ce qu'elle peut les mettre à la cave parce qu'elle n'a pas beaucoup de place dans son appartement?
Oui, alors la basilic, c'est de toute façon une plante annuelle qui ne va pas redémarrer au printemps, donc elle peut l'oublier. Elle va de toute façon périr durant l'hiver. Le persil, c'est une plante bisannuelle, ça veut dire que la première année, il donne énormément de branches que vous pourrez mettre dans vos mets. Par contre, la deuxième année, le persil, il va se mettre à fleurir, donc il est moins intéressant de conserver. Puis pour la ciboulette, alors pas de problème, c'est une plante vivace qui va revenir durant des années. Le mettre dedans n'est pas forcément nécessaire, hein, elle supporte très bien le froid, la ciboulette. Si c'est une obligation parce qu'il est dans un pot, et puis qu'on peut pas par exemple enterrer le pot dans un coin du jardin pour ressortir ce pot après au printemps pour le mettre sur votre terrasse par exemple, et bien le mettre au moins dans un endroit qui n'est pas trop trop chaud parce qu'elle ne va pas supporter un hiver trop chaud.
La différence de température en fait.
Tout à fait.
Voilà, entre
oui.
Maintenant.
Elle va continuer de pousser, puis après elle va jaunir, elle va chloroser parce qu'elle manque de luminosité, et puis au printemps elle sera épuisée.
C'est délicat ces plantes aromatiques, hein. C'est vrai qu'on a régulièrement des questions au sujet de plantes en pot, et c'est toujours un peu problématique, hein. Il y en a qui tiennent très bien, comme le basilic, mais enfin, il est très fragile, et la menthe au contraire...
Elle est envahissante, tout à
ouais.
fait.
C'est vrai que là, c'est...
Je dirais que la menthe, c'est peut-être plus judicieux de la planter dans un pot, dans votre jardin potager, parce que si vous avez la bonne idée d'en planter, puis que vous ne mettez pas une protection au niveau des rhizomes, elle va vous envahir complètement votre potager. Mmh. Alors l'idée, c'est de prendre un pot plastique ou de terre cuite, ou ce que vous avez, vous le plantez dans votre potager en laissant ce pot dépasser 2-3 cm du terrain. Et puis à l'intérieur, vous planterez votre menthe. Puis là, elle se cantonne dans votre pot, puis vous arrivez à la gérer.
Et nous recevons des SMS ce matin, Sarah.
Comment faire hiverner des oiseaux du paradis? Je les ai ramenés des îles Canaries ce printemps et je les ai laissés en pot, puis je les ai mis à l'extérieur jusqu'à maintenant.
Oui, alors c'est de nouveau la même chose, hein, comme la question tout à l'heure, c'est plutôt une question à poser sur un dossier horticole. Nous, les paysagistes, on les maîtrise moins.
D'accord, donc
désolé.
Oui. Mais c'est vrai que chacun son domaine, et c'est toujours mieux d'avoir un conseil, on va dire, correct.
Tout à fait.
N'est-ce pas? Quelle est la meilleure période pour transvaser un citronnier? Quel pot utiliser et où doit-il être posé? À noter que l'auditrice qui nous pose cette question vit en Italie. Comment faire pour stimuler la maturation des citrons? Alors, est-ce qu'on est aussi dans une question un peu plus spécifique, horticulteur, ou pas?
Bon, au niveau du rempotage, ça je pourrais répondre facilement, c'est plus judicieux de le rempoter à la sortie de l'hiver, ça veut dire sur le mois de mars-avril quand on les sort dehors. L'avantage de rempoter, c'est qu'on va stimuler la pousse, on le mettra dans un endroit qui lui conviendra énormément, ça veut dire à l'extérieur, avec une luminosité, pas trop d'air sec par rapport à un chauffage durant l'hiver dans une pièce. Donc le rempotage, de toute façon, printemps. On sait qu'il faut mettre un pot qui se trouve en grandeur, je dirais, un quart de plus que ce qu'il était auparavant. Ça veut dire que s'il fait un diamètre de 20 cm à l'époque, il faut mettre un pot peut-être de 25-28 cm en diamètre pour justement donner une extension à ce volume de terre. Après, pour la mise à fruits, ça c'est plus compliqué pour nous. De nouveau, on maîtrise moins la matière.
Effectivement. Sarah?
Hervé de Courtelary demande s'il est temps de planter le muguet pour le printemps prochain.
Bonjour Hervé. Alors le muguet, oui, peut se planter maintenant sans problème. C'est une plante un peu comme la menthe d'ailleurs, hein, qui se répand très très facilement s'il est dans un substrat plutôt frais. Le muguet apprécie bien les endroits un petit peu ombragés et très humides de votre coin de jardin. Pas de problème, vous pouvez le planter maintenant. Il va t'aller durant l'hiver, il va dire même un peu se développer raciné. Et puis au printemps, vous aurez tout de suite les premiers muguets qui vont se mettre à fleurir.
Des questions variées, diversifiées ce matin que vous posez à Jean-Pierre Ribaud. Je vous rappelle rappelle que vous avez encore un petit quart d'heure pour nous les poser. Sarah, rappelez-nous, comment est-ce qu'on peut faire ?
Par SMS au 939, vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace et ensuite vous nous posez votre question. Ou sinon, il existe aussi le formulaire internet. Sous l'onglet émission, vous trouverez questions aux jardinières. Et sinon, on attend votre appel, surtout au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Alain de Boncourt est au téléphone avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Il n'est plus là.
Il n'est plus là.
C'est des choses qui arrivent, c'est du direct.
Vous n'avez pas eu la chance d'avoir sa question, Sarah, par hasard.
Oui, alors il demandait si il a une grande glycine, alors c'est une glycine, je pense, qui a de la peine à fleurir. Et donc il se demandait à quoi c'était dû, qu'est-ce qu'il pouvait faire, est-ce que c'était la terre ?
Oui, non, alors c'est pas la terre, bonjour Alain. C'est certainement un dégât d'oiseaux qui vient vous manger les boutons floraux au printemps. Ça arrive souvent que le moineau vienne s'y frotter. Alors effectivement, si vous mangez les boutons floraux, vous n'aurez pas beaucoup de floraison. Il y a aussi de temps en temps des glycines qui ont, selon l'emplacement, de la peine à se mettre à fleurir par le fait que le froid atténue un peu les boutons floraux. C'est les deux éléments plausibles par rapport à cette glycine.
Et si jamais Alain rappelle, voilà, peut-être qu'il aura des compléments, mais en tout cas là, il a déjà des bons indices hein, pour sa réponse. Ouais. Sarah, on a reçu également un formulaire.
Jennifer de la Chaux-de-Fonds qui a constaté qu'une partie de ses carottes sont violettes noires avec un petit duvet blanc comme du moisi. Entre la carotte et les fans, il s'agit sauf erreur de rhizoctone violet. Est-ce que les carottes sont comestibles et que faire pour éviter que ça se propage cette maladie ?
Oui, alors c'est de nouveau la même chose, c'est une question un peu délicate au niveau de la réponse. Je pense que c'est plus judicieux de poser la question à un horticulteur, un producteur de légumes, que nous. C'est plus judicieux.
On va récupérer, on discutait avec Sarah tout à l'heure hors antenne, et on va récupérer toutes les questions qui concernent le domaine l'horticulture. De l'horticulture pour ensuite poser la question à quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez posé une question et que vous n'avez pas eu de réponse. On va y venir. Nous recevons toujours vos appels et vos SMS, hein, SMS au 939 et appel au 0901 70 20 20. Sarah, nous avons encore des questions.
Yves de Tramelan aimerait faire son propre compost pour avoir son propre terreau. Alors, il aimerait savoir quelles précautions il doit prendre pour que ça soit fait au mieux.
Oui, eh bien, il faut surtout faire un apport de différents substrats pour avoir un bon compost. On ne peut pas faire un super compost avec uniquement du gazon. On ne peut pas le faire également qu'avec du déchet de bois, de copeaux, de déchets de taille. Si, par exemple, vous avez beaucoup de gazon, ce gazon, faudrait le mélanger avec justement des éléments plutôt ligneux, comme le bois, le déchet de taille, ces choses-là. La feuille morte décompose très très bien et donne tout de suite un super substrat qui peut aussi se mélanger avec les déchets de tonte ou les déchets de cuisine ou les déchets des légumes que vous pouvez avoir. En fait, un mélange complet est plus judicieux qu'un compost avec uniquement un apport de même substrat. Après, il faut savoir que plus le compost est petit, et plus c'est difficile d'avoir un super compost, ça c'est évident.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour là où on le garde,
où on le met en place ?
Voilà, exactement, le stock. Est-ce que ça peut être dangereux qu'on ait tous ces gaz ensemble ?
Non, il faut surtout le mettre dans un endroit un peu frais, parce qu'effectivement, la matière végétale, pour se décomposer, a besoin d'humidité. Si vous le mettez sur un endroit exposé plein soleil, il lui faudra beaucoup plus de temps pour se transformer que si vous le mettez à l'ombre, dans un espace frais et humide.
On a une autre question, une question de Laurent de Courfèvre qui nous dit « Les feuilles de mon chêne pâlissent, elles ont une teinte dorée, que dois-je faire ?»
Alors je dirais certainement que c'est déjà des prémices d'automne sur le chêne. Il passe très vite au niveau des couleurs, comme certains fruitiers, comme certaines essences par chez nous. Je pense qu'il n'a pas trop à s'inquiéter par rapport à ce phénomène maintenant. Il faut aussi savoir qu'on sort d'une très longue période de sec. Les dernières pluies sont des 24-48 heures arrière, donc tout a un peu souffert cette année de ce sec, d'autant plus si sa chaîne est plantée sur un espace où il n'y a pas beaucoup de terre, pas beaucoup de fond, comme on dit. Il a souffert et il va perdre ses feuilles plus vite que s'il avait été dans un espace plus frais.
Et si, justement, en parlant de... Les feuilles vont commencer à jaunir, rougir. Est-ce que le fait qu'il a fait très chaud, ça peut engendrer une avance sur le changement de couleur des feuilles ou pas du tout?
Oui, je pense qu'on peut avoir une avance par rapport au sec sur une perte de feuilles sur l'automne, comme le cerisier, comme les mirabelliers. C'est des essences qui vont perdre relativement plus vite les feuilles que si on avait eu une bonne période humide sur le mois d'août. Après, c'est pas catastrophique. Le végétal aura quand même emmagasiné un maximum d'éléments nutritifs pour un redémarrage nickel au printemps.
Nous avons un appel d'Antonio de La Chaux-de-Fonds qui veut parler de son rosmarin.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Antonio de La Chaux-de-Fonds. Je viens de Portugal. J'étais en vacances. Et puis, j'ai pris du rosmarin. Est-ce que dans l'appartement, est-ce qu'il va tenir et puis, je ne sais pas comment je dois faire. Si,
oui, alors, effectivement.
Il va vivre.
Oui, alors il va passer l'hiver dans votre appartement sous réserve que vous ne le mettez pas à côté du radiateur où il fait 40 degrés, que vous lui ameniez quand même de l'humidité constante parce que il va souffrir un peu de cet espace chauffé, sec de votre appartement. Donc mettez-le plutôt dans un endroit où il n'y a pas trop de température avec un maximum de luminosité. Il faut aussi savoir que si vous le laissez à l'extérieur, il va geler. Il ne supporte pas tellement nos altitudes. Hein.
D'accord.
Merci beaucoup d'avoir appelé, Antonio. Belle journée. Belle journée. Au revoir.
Bonne journée. Merci.
Vos appels, nous les avons reçus ce matin, ainsi que vos SMS. Merci, les jardinières. On arrive déjà bientôt à la fin de l'émission. Merci pour toutes ces questions et merci surtout à Jean-Pierre Ribaud qu'on va retrouver bientôt pour une nouvelle émission. On vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour une nouvelle émission des jardinières.
Durant cette semaine, on ne chôme pas, on lit toutes vos questions. Vous pouvez déjà nous envoyer un SMS au 939 en n'oubliant pas d'écrire d'abord le mot jardin et de laisser un espace. Ou alors il y a le formulaire internet.
Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h. Les jardiniers. Les jardinières. Rediffusion.